Vous êtes sur RTL.
RTL, il est 10h. Le journal Aude Vernuccio.
Bonjour Peggy, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. À la une, le gouvernement s'attaque à l'épidémie de coronavirus. Ouverture dans quelques minutes d'un conseil de défense à l'Elysée, suivi d'un conseil des ministres à midi. Conseil des ministres extraordinaire, présidé par Emmanuel Macron. Une nouvelle étape franchie dans l'épidémie. 57 cas de coronavirus sur le territoire. Normandie, Alpes-Maritimes, région parisienne. Des voleurs ont dérobé un stock de masques de protection au CHU de Nice. Distingué Roman Polanski, un affront pour les femmes victimes de viol, selon les collectifs féministes. Le réalisateur a été sacré meilleur réalisateur hier au cours d'une cérémonie des Césars controversée. Le rugby s'engage contre l'homophobie. On l'entendra dans un instant. Et puis le temps avec vous, Patricia Charbonnier. Bonjour, météo encore très agitée.
Ah, de la pluie et du vent pour toute la journée sur une bonne partie du pays. C'est une nouvelle tempête qui va balayer la moitié nord du pays. 16 départements sont placés en vigilance orange. Vent violent entre l'Île-de-France et le Grand Est avec des rafales entre 90 et 100 km/h dans les terres et jusqu'à 120 km/h en rafale cet après-midi sur les côtes de la Manche, avec en plus au passage de cette perturbation des pluies soutenues qui sont en train de progresser vers l'Île-de-France et vers l'Est un petit peu plus tard dans la journée. Et attention, beaucoup d'instabilité cet après-midi dans le Nord et le Nord-Ouest, avec là de fortes averses à caractère orageux, du grisil, toujours de violentes rafales de vent et des températures plutôt douces. 8 degrés cet après-midi au Havre, 11 à Paris, 14 à Nancy, 17 à Nîmes, 18 à Ajaccio, 19 à Perpignan.
Merci Patricia. Le coronavirus, stade 2, une nouvelle étape de l'épidémie a été franchie. Propos du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui fait état de 57 cas recensés sur tout le territoire. Normandie, Alpes-Maritimes, près d'Annecy, aussi en Haute-Savoie ou encore dans l'Oise. C'est dans ce département qu'un enseignant de 60 ans est décédé cette semaine. Alors ces derniers jours, le gouvernement a multiplié les annonces après une réunion avec les partenaires sociaux hier. Place ce matin un conseil de défense, suivi d'un conseil des ministres extraordinaire à midi, présidé par Emmanuel Macron. Le conseil de défense vient de débuter à l'Elysée. Vincent de Rosier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place, mobilisation totale affichée du gouvernement.
Oui, le président n'avait pas vraiment le choix. Après sa visite jeudi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Emmanuel Macron a pris la décision de convoquer le gouvernement ce week-end. Le message politique est simple, l'épidémie progresse, le gouvernement est donc sur le pont, car le virus ne stoppe pas sa progression le week-end, confie un conseiller. Les ministres vont d'abord faire un point d'étape autour du ministre de la Santé, dans un conseil de défense restreint, autour d'Emmanuel Macron, le Premier ministre, bien sûr, et 7 ministres, dont Jean-Yves Le Drian, Bruno Le Maire ou Christophe Castaner. Puis dans un deuxième temps, le gouvernement décidera de mesures d'adaptation, voire d'anticipation dans chaque ministère, explique un proche. Et en réalité, ce travail a déjà commencé. Olivier Véran recommande des gestes simples, notamment de ne plus avoir recours à la poignée de main. À Bercy, Bruno Le Maire annonce que le coronavirus sera considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, elle précise que les parents d'enfants confinés seront mis en arrêt maladie 100 jours de carence. D'autres mesures pourraient être décidées ce matin, notamment dans les transports en commun. Et c'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui tiendra exceptionnellement le point presse à la mi-journée à l'issue du Conseil.
Merci à vous Vincent de Rosier en direct de l'Elysée pour RTL. Des chiffres qui inquiètent les Français, illustration dans les Alpes-Maritimes. Un premier cas a été détecté hier à Nice et malgré les appels du ministère de la Santé, ne paniquez pas, eh bien les pharmacies sont en rupture de masques de protection. Un stock entier a été dérobé au CHU niçois. Charles Guéprat, directeur général de l'établissement, raconte.
On a eu à déplorer des disparitions de masques chirurgicaux, notamment dans les chambres de pneumologie et dans les zones visiteurs, puisque les visiteurs doivent porter un masque de protection pour des patients qui sont fragiles. Ces masques, ils sont à la disposition, encore une fois, des familles. C'était des masques qui sont mis à disposition des familles pour qu'elles puissent visiter leurs proches. Donc, on a pris des mesures de centralisation de ces masques. Je pense que c'est un phénomène qui va se tarir et sur lequel nous sommes extrêmement attentifs.
Propos recueillis par Michael Lefebvre pour RTL. Là non plus, il ne s'agit pas de céder à la psychose, mais bien de prévenir la propagation du virus. Les autorités sanitaires recommandent d'éviter les bises, les embrassades, les poignées de main. Veillez à les laver régulièrement. Conseil à suivre aussi avec vos collègues de bureau. Le monde de l'entreprise se prépare à affronter l'épidémie avec des conditions particulières pour les salariés. Recours à l'activité partielle, télétravail. La ministre du Travail assure que des arrêts maladie seront délivrés aux parents en quarantaine. 59 pays touchés au total, plus de 2800 morts. L'Organisation mondiale de la santé relève son alerte au niveau maximum. La menace est désormais très élevée selon les experts de santé. L'une des conséquences, les marchés financiers s'affolent de Tokyo à Francfort en passant par New York. Les bourses viennent de vivre leur pire semaine depuis la crise de 2008. À Wall Street, le Dow Jones s'est effondré de plus de 12% ces derniers jours. Pékin n'échappe pas aux dégâts sur l'économie et la Chine plombée par l'épidémie depuis plus d'un mois. Le nombre de victimes s'amoindrit de jour en jour. 47 morts par exemple cette nuit d'après les autorités. Le bilan n'avait jamais été aussi bas et le régime incite les commerçants à rouvrir partiellement les magasins. On sent qu'une timide reprise se dessine. Les explications de notre correspondant sur place, Stéphane Pambrin.
C'est le nouveau mot d'ordre en Chine. Après la guerre contre le virus, la guerre contre le ralentissement économique. Pékin a demandé aux entreprises de reprendre le travail, car après plus de 5 semaines de fermeture, beaucoup de sociétés sont au bord de la faillite. Le gouvernement a promis des mesures de soutien, comme l'explique le patron de cette usine qui fabrique des pièces automobiles.
Le gouvernement nous a demandé de reprendre la production. C'est une bonne chose. Nous avons obtenu pas mal d'aides de l'État, comme une baisse des charges sociales, des incitations financières pour alléger nos charges. Et on espère que les ouvriers vont pouvoir reprendre le chemin de l'usine avec enthousiasme.
Un enthousiasme qui est le maître mot d'une campagne menée tambour battant dans les médias officiels. Car la reprise du travail dans l'usine du Monde est plus facile à dire qu'à faire. D'abord, beaucoup d'ouvriers ne sont toujours pas rentrés de ces congés forcés et les mesures de désinfection imposées dans les usines et les bureaux rendent très compliquée la reprise normale de l'activité.
Les explications de Stéphane Pambrin, correspondant en Chine pour RTL. RTL, il est 10h07. C'est une année noire pour la SNCF. La compagnie ferroviaire n'est pas épargnée par les crises. Entre le coronavirus et le mouvement de grève contre la réforme des retraites, les résultats financiers sont à la baisse. Au total, 801 millions d'euros de pertes en 2019. Le nouveau patron, Jean-Pierre Farandou, a donné une conférence de presse hier. Il va falloir adopter une toute nouvelle stratégie pour enflouer les caisses.
D'abord, c'est aller conquérir des clients. On voit qu'il y a un gros engouement du train en ce moment. À nous de saisir cette opportunité pour la transformer en chiffre d'affaires supplémentaire. Nous allons aussi faire un travail de décalage de projets. Ça peut être des projets informatiques, ça peut être des projets de rénovation de matériel qu'on peut décaler dans le temps. Quand on met bout à bout l'ensemble de ces mesures, c'est un ajustement pour nous permettre de compenser au maximum l'impact des grèves sur les comptes à venir de l'année 2020.
Jean-Pierre Farandou, micro RTL d'Éric Vanier. On marque une pause. Dans un instant, elle s'annonçait tendue, elle a finalement été électrique. Improbable 45e cérémonie des Césars. Notre spécialiste Stéphane Boutsock viendra tout vous expliquer. A tout de suite.
RTL, le 10h, Aude Vermuccio.org. RTL, le 10h, Aude Vermuccio.
RTL, 10h09, bientôt 10 minutes. Bonsoir et bienvenue à la 45e cérémonie des Taulards. L'humour grinçant de la maîtresse de cérémonie, Florence Foresti. C'est elle qui avait la lourde charge d'animer la cérémonie des Césars, marquée par plusieurs scandales. Malgré la levée de boucliers au sein du monde du cinéma, Roman Polanski, accusé d'agression sexuelle, a été sacré meilleur réalisateur pour son film J'accuse. À l'entrée de la salle Playel, comité d'accueil composé d'une centaine de manifestants. À l'intérieur, le cri de colère d'Annel Haenel porte voix des violences sexuelles dans le 7e art. La honte, crie-t-elle avant de quitter son fauteuil suivi d'une dizaine de personnes. La controverse semble avoir en tout cas attiré les spectateurs. 2,2 millions de Français ont suivi la cérémonie hier soir. C'est 600 000 de plus que l'an dernier. Stéphane Boutsock, bonjour.
Bonjour à tous.
La question est très simple. Et maintenant, que va-t-il se passer au sein de l'institution ?
Celle où celui qui va prendre les rênes de l'Académie des Césars aura donc non pas un vaste champ mais une rénovation totale à accomplir, rénovation après démolition. Aux scandales et polémiques sur le fonctionnement de l'institution s'ajoute donc depuis hier soir une véritable fracture. Les membres actuels, ceux qui ont voté pour Roman Polanski, ont en fait signifié que la vieille école, tant décriée par la nouvelle génération, restait bel et bien aux commandes, que c'est elle qui décidait encore. D'où, en effet, la fureur d'Adèle Haenel, par exemple, symbole de ce vent de changement et de la cause féministe. Écoutez ces mots hier soir, dans les couloirs de la salle Playel, après avoir quitté son siège avec fracas.
Vive la pédophilie ! Bravo la pédophilie ! Bravo !
Bravo, la pédophilie, les mots sont forts. Le geste du César attribué à Roman Polanski l'est tout autant. Provocation, crachat, gifle ou bras d'honneur, tout cela va laisser des traces. Dès hier soir, les chaises vides au traditionnel dîner d'après-cérémonie aux Fouquet's donnaient une idée de la déflagration. Mais demain, ou en tout cas très vite, anciens et nouveaux mondes vont devoir se retrouver autour d'une table, se parler, construire la future académie. C'est aussi le message de Nicolas Bedos.
Je tais ma voix de mâle blanc dominant. Voilà, ça serait malvenu et sans doute illégitime maintenant. Après, je pense qu'il y aura beaucoup à dire sur tout ça. Il y aura beaucoup à dire. Il va falloir que les uns et les autres, on se réconcilie, qu'on réfléchisse, qu'on avance. Mais tout de suite, là, en ce moment, c'est aux femmes de parler. Alors, pas à moi.
Le calendrier est d'ores et déjà défini. Une présidence intérimaire est en place. Une assemblée générale est prévue d'ici fin avril. Une nouvelle équipe sera désignée d'ici l'été. Quel sera son visage, son discours, sa vision? C'est en fait la survie même des Césars qui dépend de ces questions, si l'on veut qu'il y ait l'an prochain une 46e cérémonie.
Merci à vous Stéphane Boutsock. Alors n'oublions pas non plus le palmarès. Le grand gagnant de cette soirée reste Les Misérables de Ladjili, qui rafle 4 récompenses, dont celle du meilleur film. On écoute le réalisateur.
On m'a souvent demandé quelle était la morale de ce film. Elle est simple. Nous vivons dans un pays blessé et c'est la pauvreté qui divise les Français. Il est temps de baisser les armes, il est temps de s'unir. Il est temps de montrer qu'on fait tous partie du même pays. La France est notre pays. Faisons-en un grand pays. Le seul ennemi, ce n'est pas l'autre, c'est la misère. Merci à vous.
La réaction du réalisateur Ladjili. Autre récompense dans le détail. Anaïs de Moustier, sacrée meilleure actrice pour son rôle dans Alice et le maire. Roche disait meilleur acteur dans Roubaix une lumière. Par ailleurs, Lina Koudry a été désignée meilleur espoir féminin pour son rôle dans Papicha de Mounia Medour. RTL 10h13, c'est tout un symbole dans le monde du sport. Le ballon ovale s'engage contre l'homophobie. La Ligue nationale de rugby annonce un plan de lutte et des initiatives sur 4 ans. Le but, c'est d'éradiquer le phénomène dans un milieu où un seul joueur a fait son coming out, et c'était il y a 10 ans. On parle bien sûr du Gallois Gareth Thomas. Première opération baptisée Plaquons l'homophobie. Quentin Vasselin, la Ligue s'attaque d'abord aux insultes homophobes sur le terrain et aux préjugés.
Effectivement, pendant les prochains mois, les équipes du magazine LGBT Têtu vont se déplacer dans les 30 clubs de rugby professionnels. Objectif, sensibiliser et lutter contre l'homophobie.
J'ai un ami qui jouait dans les espoirs d'Exeter en Angleterre. Très très bon joueur.
Simon Gillham, le président de Brive. Le programme débutera dans son club d'ici quelques semaines.
Et il a arrêté le rugby à 20 ans. Toutes les blagues à 2 balles sur les homosexuels, il se sentait pas du tout bien.
Aujourd'hui encore, trop de jeunes arrêtent le rugby à cause de leur orientation sexuelle. Plaquons l'homophobie doit permettre de libérer la parole. C'est l'espoir de Johan Maestri, le capitaine du Stade français.
Si un joueur venait le dire et qu'on sentait qu'il avait un peu une peur de l'avoir dit ou qu'il avait caché pendant des années, on sentirait qu'il y a un petit malaise et ça, il faudrait vite le gommer et ici, dans le vestiaire en tout cas, la vision de ses coéquipiers ne changerait pas. Bien au contraire, il n'y aurait aucun souci par rapport à son attirance sexuelle. Quoi.
Pour le moment, seul le Gallois Guérin Thomas a fait son coming out dans le rugby après avoir terminé sa carrière.
Quentin Vasselin du service des sports d'RTL. Un mot de football pour terminer. Marseille s'est imposé 3-2 face à Nîmes à l'ouverture de la 27e journée de Ligue 1, triplé de Dario Benedetto. Ce soir, le PSG affronte Dijon à 17h30, Monaco-Reims, Toulouse-Rennes. Rencontre à suivre bien évidemment dans On refait le match à 18h30, suivi du multiplex sur RTL. Les courses à Vincennes. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 3, le 11, le 12, le 13, le 7, le 9, le 4, le 14 et sa dernière minute, le 12. Dacha départ à 15h15. La course du Quintet à suivre sur sisplay.fr. On part du côté du Salon de l'Agriculture, il me semble, Vincent Perrault. Bonjour.
Oui, exactement, Aude. Bonjour. Les micros sont branchés ici et ça n'est qu'un début. Merci beaucoup. Bonne journée.
Eh bien, bonne journée à vous. Vous retrouverez Vincent Perrault dans Stop ou encore en direct du Salon de l'Agriculture sur RTL juste après la pause. À tout de suite.